Mais puisqu'il n'est question ici, à la radio, que de voix, je pense à celle du poème. Une voix lointaine, une voix qu'il n'est pas besoin de nommer parce qu'on la reconnaît. Une voix qui a en elle suffisamment de force et de lumière pour rassembler et pour faire rêver. Vous pouvez y voir ce que vous voulez, mais c'est une voix, écrit Robert Desnos, qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour, voilée, qui parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute, ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit « la peine sera de courte durée ». Elle dit « la belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas? C'est un poème de Robert Desnos, une voix pendant la guerre, une voix de résistance, tout ce qu'il y a dans une voix.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, de quoi se compose la voix de mon invité d'aujourd'hui. Il a donné le ton des années 80 avec son titre Cargo, vous vous souvenez, et depuis il n'a cessé de tracer sa route dans la chanson française avec sa guitare comme vaisseau. Son 8e album Radio Londres sort dans 10 jours, tout en électricité, en mélodie et en résistance. Bonjour Axel Boer.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Ce matin. De quoi est-ce que c'est fait une voix, je me suis demandé pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans une voix?
Il y a plein de choses, et d'ailleurs, je rebondis sur ce poème de Desnos. Je trouve une voix comme un tambour, c'est une très belle image, et c'est peut-être l'image qui m'a accompagné, qui est proche de quelque chose qui m'a accompagné pendant l'enregistrement de ce Ici Londres, avec la voix de mon père, une voix comme un tambour, une voix de résistance.
Parce que la voix de votre père, il faut peut-être le dire, Axel, Frank Bauer, qu'on entend donc sur le premier morceau de votre album Ici Londres, quelle voix est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle porte, cette voix, que les auditeurs et les auditrices connaissent?
Eh bien, mon père, quand il avait 22 ans, était à Radio Londres, c'est-à-dire, en fait, Radio Londres, c'est la radio de la France, libre, émettant depuis Londres, sous le Blitz à l'époque, c'est-à-dire les bombardements allemands, donc la voix de la liberté, de l'espoir, dans une France occupée, où la radio qui s'appelle Radio Paris est en fait une radio allemande.
Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, de ce qu'incarnait la voix de votre père ?
Tard, parce que mon père a eu 1000 vies et donc on n'en parlait pas réellement. Quand j'étais petit, il était public relation. Mais il a fait beaucoup d'autres choses et donc ce n'est que tardivement, quand il s'est retrouvé à être le dernier speaker de Radio Londres vivant, parce qu'il n'était pas le seul, hein. Il y a eu des grands speakers comme Maurice Schumann, Pierre Bourdan, Jean Oberlé et d'autres. Donc là, il a écrit un livre qui s'appelle 40 degrés à Londres, l'espion qui venait du jazz, et c'est là que j'ai vraiment eu tous les détails de sa pensée quand il avait 22 ans dans cette période trouble de l'histoire.
Ici Londres, les Français parlent aux Français. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
C'était Jacques Huchet, c'était Jean Marat, c'était Jean Oberlé, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann.
Axel Boer, mêler votre guitare et votre voix à celle de votre père, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Pourquoi c'était important? Parce qu'il y a comme cette idée de transmission d'une voix à l'autre, là.
Mon père m'a non seulement encouragé à faire de la musique, mais il m'a appris la musique quand j'étais enfant, puisque par ses disques, par les disques qu'il écoutait, donc... Il y a eu ce jour où il est venu, il devait avoir 93 ans, je crois, et on parlait de son livre, et il m'expliquait justement que cette voix, qui nous est bizarre à l'oreille, puisque c'est français, parle-toi français, qui est très nasillard, donc je lui dis, mais c'est pas ta voix. Il me dit, Si, mais on nous entraînait à parler comme ça parce qu'il fallait passer au-dessus des brouillages des Allemands. Alors, il était dans mon studio, j'avais un micro. Je lui dis, est-ce que tu peux me faire la voix? Alors, il a bombé le torse comme ça et fièrement, il a dit, les Français parlent au français. Et à ce moment-là, on s'est regardé et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on fasse une chanson résistante? Et bien sûr, mon père était musicien aussi et faire une chanson avec son fils à ce moment-là, je pense qu'il a eu, il a eu envie et malheureusement il est plus là, mais il avait envie qu'on fasse cette chanson.
C'est-à-dire que son rêve, vous le racontez, c'était de devenir musicien. Il paraît que c'est grâce à lui que ce désir a germé en vous. En 1974, il vous emmène à un concert des Who, Axel Boer. Il a 56 ans, vous en avez 13. Musicalement, il était quand même assez ouvert d'esprit.
Complètement, complètement, oui. Il m'a emmené au concert des... Il est arrivé avec d'abord l'album Tommy, puis Quadrophenia. Il avait une espèce de passion pour les Who que je comprenais pas bien d'ailleurs, parce qu'il avait quand même 56 ans.
Et alors, quelle révélation est-ce que ça a été, ce concert, pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu ce soir-là?
Ça a été comme une déflagration dans ma tête. Je me suis approché petit à petit, fendant la foule comme ça, le petit gamin que j'étais. Je me suis mis en face de Roger Daltrey qui faisait tournoyer son micro, Pete Townshend qui faisait des moulinets et Keith Moon qui fracassait sa batterie. Oh là là. Et le son était hallucinant de puissance. Et je suis sorti de ce concert en me disant c'est ça que je vais faire.
Oh, Roger Daltrey qui reprendra d'ailleurs quelques années plus tard votre titre Cargo. Ça aussi, oui, c'est quelque chose, oui, dans la vie d'un musicien, non?
Ça, c'est hallucinant en fait. Parce que effectivement, je l'ai rencontré complètement par hasard. J'entendais ce type, je faisais une télé en Belgique, je crois, et j'entendais dans le couloir quelqu'un qui parlait en anglais. On lui avait perdu sa guitare. Alors j'avais une belle guitare avec moi, une Strat sérielle, et je suis sorti dans le couloir. Je dis peut-être que ça c'est bien. Vous pouvez faire la télé avec ça, parce qu'en plus on n'était pas branchés. Donc j'ai même pas regardé la personne qui avait les cheveux courts. Et là, tout d'un coup, je réalise que c'était Roger Daltrey. Et pour me rendre la guitare, il fallait qu'il attende que j'ai fini moi aussi de chanter avec la même guitare. Et donc, c'est là qu'il a découvert Cargo. Et plusieurs années après, il l'a repris. Ouais.
Mais quand vous repensez au Who, quel titre, quelle musique, quel riff, quelle mélodie vous reviennent tout de suite? Vous avez cité Pete Townshend, guitariste des Who, considéré comme l'un des guitaristes les plus novateurs du rock, Axel Boer, aux côtés de Jimi Hendrix, Eric Clapton ou Jeff Beck. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Vous qui avez une guitare et vous venez de vous en saisir.
Très spontanément. Ever since I was a young boy, I played a silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all.
Trop bien! Mais c'était pas prévu, ça.
Non, pas du tout.
C'est assez merveilleux. Vous me troublez, du coup. Vous dites que c'est pas Pete Townshend, le guitariste des Who, qui vous a donné envie de vous tourner vers la guitare. C'est qui? Alors?
Ah, c'est Pete Townshend, mais Pete Townshend était plus un compositeur pour moi et une bête de scène. Le premier vraiment qui m'a ébloui, mais vraiment à travers les disques, parce qu'il n'y avait pas d'image, on ne le voyait pas, vraiment, c'était Johnny Winter. Et Johnny Winter, avec ce disque, le Captured Live, qui est un disque où il y a des solos incroyables, aussi de son deuxième guitariste, qui était Rick Derringer, qui n'est pas un manchot non plus. Et tout d'un coup...
Parce que qu'est-ce qui fait pour vous un bon guitariste, au fond?
C'est une très bonne question et en même temps c'est une question très vaste. Je pense que c'est le soul, c'est quand on joue avec ses tripes et quand on joue avec son cœur. Donc c'est pas une histoire de technique, bien sûr, même si je pense qu'il faut quand même une certaine technique pour s'affranchir de la technique.
Oui, et puis pour proposer aussi peut-être une nouvelle approche de l'instrument, une approche plus personnelle. Votre jeu de guitare à vous, Axel Boer, qu'est-ce qui en fait sa singularité, à votre avis?
Le mélange, il est le mélange, puisque ça a été dur de me trouver parce que enfant je dessinais et j'écoutais beaucoup de jazz, donc j'écoutais beaucoup de pianistes, Oscar Peterson, Errol Garner, Bill Evans, les disques qu'écoutait mon père. Et puis ma tante est aussi une grande concertiste de piano qui a joué dans les plus grandes salles du monde, puisqu'elle a joué à Carnegie Hall avec le Boston Symphony Orchestra, etc. Donc la musique était quelque chose était un vrai sujet, en fait, dans la famille. Donc, ayant écouté beaucoup de musique classique et de musique contemporaine, parce que j'écoutais Shostakovich et Fauré, etc. Bon, donc, en écoutant du jazz, en écoutant de la musique classique, j'étais déjà un hybride. Quand je suis arrivé au Who, tout ça s'est mélangé dans ma tête, et finalement, mon style, c'est devenu une sorte de truc qui se mélange entre le blues et en même temps des choses très très inspirées des harmonies classiques ou même du côté expérimental du son que j'ai, puisque à 19 ans je prenais aussi des cours de musique électroacoustique avec Yanis Xenakis, qui est quand même connu pour être un grand mathématicien, un grand architecte et puis un grand musicien. Je crois qu'il est à l'aube de l'IRCAM aussi, avec Boulez, donc ce sont des grands musiciens.
Il y a tout ça dans votre guitare. Vous savez qu'il y en a une qui est tout aussi singulière que vous dans cette émission.
Tout
vous
ça modestement, Augustin. Hein, c'est...
Bien ouais, sûr, vous la connaissez sans doute. C'est la culture et son actualité tout à fait rock'n'roll, elle aussi. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 3 mai? Le théâtre russe du Bolchoï a annoncé hier qu'il retirait de sa programmation deux spectacles, le ballet Nouriev de Kirill Serebrennikov et l'opéra Don Pasquale de Timofey Kouliabine. Si officiellement aucun commentaire n'a été fait par l'institution moscovite, il semblerait que les prises de position contre la guerre en Ukraine des deux artistes exilés en Europe ne soient pas étrangères à cette décision. Kirill Serebrennikov est par ailleurs attendu au Festival de Cannes pour présenter Tchaïkovski's Wife, son prochain film retenu en compétition officielle.
I just did Batman the way I remembered it. Did I change anything about the way he operated in any way? No.
Le dessinateur américain Neal Adams est mort à l'âge de 80 ans. Connu pour son trait élégant, il avait largement contribué dès les années 60 à renouveler certains super-héros célèbres comme Superman, les X-Men ou Green Lantern. C'est aussi à lui qu'on doit notamment la modernisation de Batman, personnage qu'il dote dans les années 70 d'un côté résolument plus sombre, solitaire, violent. Enfin, Neal Adams restera comme l'un des acteurs majeurs de la lutte pour la reconnaissance du droit des auteurs et des artistes.
I always look at images as an ad, and an ad is supposed to make you stop and look at it twice. If not, then it hasn't really done its job.
Ibrahim Camara, c'est le nom du jeune styliste qui a été nommé à la tête de la création de Off-White, la marque du designer américain Virgil Abloh, disparu en novembre dernier à l'âge de 41 ans. Originaire de Sierra Leone, formé à la St. Martin School, rédacteur en chef mode du très pointu magazine britannique Dazed, Ibrahim Camara a été choisi pour prolonger le travail de synthèse amorcé par Abloh entre le streetwear et le luxe. On attend maintenant de savoir qui remplacera ce dernier à la tête des collections hommes de la maison Vuitton qu'il dirigeait depuis 2018. Et le musicien Axel Bauer, invité de Boomerang ce matin pour parler de guitare, de transmission, d'accord, à 10 jours de la sortie de votre nouveau disque Radio Londres. Axel, un disque placé sous le signe de la survie quand même. Je pense notamment au titre C'est malin, dans lequel vous évoquez votre cancer, ce combat contre la maladie. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous le gagniez?
Pour moi, c'est très simple, hein, parce que c'est une chirurgie qui m'a sauvé. Donc, je parlerai pas vraiment de combat, parce que j'ai pas eu véritablement à combattre. Et ce qui m'intéressait vraiment, ce qui est arrivé spontanément quand je n'ai pas voulu en faire une chanson, c'est juste que il y a une prise de conscience de la nouvelle qu'on vous annonce qui fait que vous perdez complètement le sentiment de votre propre importance. C'est une petite mort qui peut être la vraie, le vrai arrêt.
Une fois qu'on l'a reçue, cette nouvelle, elle reste, elle est présente, elle est là.
Oui, c'est la perte du sentiment d'immortalité, une sorte de passage à l'âge adulte. C'est ça que j'ai écrit, je pense, dans cette chanson.
Mais en l'occurrence, c'est pas la première fois que vous échappez à la mort, Axel. À la fin des années 80, vous avez failli mourir sur scène.
Bah, je suis un rocker.
Électrocuté par une guitare, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Voilà, ce sont un peu les circonstances, effectivement, sur scène. Le festival du rock de Val d'Isère, à l'époque, tout le gratin du rock'n'roll est là. Gainsbourg joue, il est bourré, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à l'époque. Et la soirée s'affaisse, et on vient me voir, on me dit « Est-ce que tu peux réveiller tout le monde avec ta guitare ?» Et je monte sur scène, je me branche, le micro est trop haut, je le baisse, et là je croise la guitare enfin j'ai oublié son nom, le manche tape sur son manche et je m'électrocute. Et vraiment fort, en fait, je suis électrocuté, je peux plus me séparer de la guitare, du micro, et je tombe en arrière, et voilà. Et Philippe Manœuvre, qui est à côté, voit ça, et il shoot dans l'ampli, il s'arrache la prise et il me sauve.
Mais cet accident, qu'est-ce qu'il a changé dans votre rapport au monde, dans votre rapport aux autres ?
Ça, c'est une expérience personnelle très, très bizarre, parce qu'en fait, pendant l'électrocution, j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a dit « Est-ce que tu veux rester ou partir ?» Alors, j'étais très surpris d'entendre cette voix. J'ai réfléchi plusieurs années. Ça m'a un peu ouvert des portes aussi sur la spiritualité.
Et ça a changé quelque chose dans votre musique ? Rien que le fait de continuer, cela dit.
Je saurais pas dire si ça a changé quelque chose. Non, je pense que non. Il y a une partie volontaire dans la musique, et puis une partie laissée faire. Vous savez, quand je commence un album, c'est comme partir un peu dans une forêt vierge avec une machette, essayer de tracer un chemin. On sait qu'il y a un trésor ou une clairière quelque part, et donc il y a cet abandon dans l'inconnu, finalement. Je ne fais pas un album qui s'appelle Radio Londres en commençant consciemment en me disant je vais parler de Radio Londres et je vais faire ça, en fait, comme on le ferait certainement pour un film. Là, pour un disque, c'est un peu des impressions qui se collent un peu comme ça, à la fois sur des notes, sur le papier, c'est des accords, c'est des donc et puis tout ça, au bout d'un moment, on le regarde avec la distance et on dit ah oui, ça s'appelle Radio Londres.
En tout cas, il y en a eu des clairières dans votre itinéraire, Axel Boer. Et pour rafraîchir la mémoire des auditeurs et des auditrices de Boomerang, on en a choisi quelques-unes, incontournables dans le désordre. Il y a quand même eu ça. Puis il y a ce duo mythique avec Zazie. Mais il y a surtout eu le titre qui a tout changé pour vous. Axel Boer, cette chanson qui a marqué les esprits vraiment, pas seulement dans la musique, notamment grâce au clip de Jean-Baptiste Mondino, au noir et blanc sensuel, à la poésie marine de Jean Genet. Est-ce qu'à l'époque, vous avez mesuré la charge quand même érotique de cette chanson que vous avez composée, mais dont les mots sont de Michel Elie ?
J'ai envie de vous dire oui, c'était quand même conscient, puisque la pochette du single Cargo est déjà inspirée de l'affiche du film Querelle de Fassbinder. Donc oui, et Cargo est aussi inspiré de films comme Pépé le Moko. Alors et forcément mais l'univers de Querelle façonnait en quelque sorte le texte de cette chanson.
Qu'est-ce qu'elle racontait en fait pour vous, cette chanson, où vous nous invitez l'air de rien à changer de bord ou de port, on ne sait pas trop. Mais c'est très bien comme ça, moi j'avais choisi mon camp, Axel. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour vous?
Vous savez, j'étais très jeune, donc j'avais 22 ans, ce que ça voulait dire pour moi, c'était la détermination d'avancer, c'était quoi qu'il arrive, la machine dans la tête, c'était pas encore c'était pas encore le monde moderne dans ma tête, mais c'était toute ma révolte adolescente qui s'exprimait aussi à travers ça, une quête d'identité, et des mots extrêmes, et puis des situations extrêmes, des hommes ensemble qui marchent comme ça sur un quai. C'était fort, c'était.
D'accord, bon. Donc on est bien d'accord avec ça. On n'a pas. non, mais c'était juste pour savoir. Hein, je vais pas mentir aux auditeurs. Mais musicalement, elle est née comment cette chanson? Vous vous souvenez par quels accords, par quelle mélodie?
Elle est née d'abord un soir au clavier sur le clavier. Je jouais des accords qui très complexes comme ça, qui ressemblaient à. C'était très au pied clavier, c'est très classique. Et tout d'un coup, il y a une mélodie qui est arrivée. Qui est... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.
Ça, c'est devenu Cargo.
Et je l'ai fait écouter à Michel Elie le lendemain, qui me connaissait pas, on se connaissait pas, c'est à travers Philippe Missir, ils avaient monté un tout petit label tous les deux, et je lui ai fait écouter ça, et surtout il y avait cette guitare que j'avais rajoutée dessus sur ces accords qui faisaient. Et Michel a complètement flashé dessus. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un refrain? J'ai dit, ben, je sais pas, je reviens demain et j'ai fait le refrain. Et ça te montre. Voilà. Et l'histoire a commencé comme ça après.
Vous avez toujours composé, vous, dont on connaît aussi le travail de compositeur pour Johnny Hallyday notamment, et pour la chanson J'ai rêvé de nous. Ça a toujours été en vous. Vous avez commencé par ça?
Au départ, oui, je suis plus compositeur qu'auteur, oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, Michel a écrit le texte de Cargo. C'est la musique qui m'emmenait dans les mots. Après, ça a un peu changé, parce que j'ai commencé à écrire un peu à droite, à gauche sur des cahiers. Donc après, maintenant, c'est mélangé. Parfois, je commence par la musique et parfois, je commence par le texte.
Ah, on va voir. On va écouter ensemble des riffs de guitare, de la mélodie avec Achète-moi une âme, nouvel extrait de votre album Radio Londres. C'est une première diffusion. Vous êtes sur France Inter avec Axel Boer. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Vends-moi de belles vitrines, vends-moi des émois, vends-moi l'adrénaline qui nous délivrera, vends-moi des paquebots avec des cheminées roses. C'est beau, j'ai besoin de ma dose. Mon amour, si tu vas dehors, trouve-moi de l'émotion, des larmes. Amène-moi de la mousse, quelques lames, des calmants pour mon corps. Et si ça se fait encore, mon amour, voyage dans le temps, dans l'espace. Vends-moi le présage d'aller plus loin que Mars. Mon amour, si tu vas dehors, trouve-moi de l'émotion, des larmes. Amène-moi de la mousse, quelques lames, des calmants. Si ça se fait encore, mon amour, si ça se fait encore, achète-moi une âme.
France Inter, Boomerang.
Mais effectivement, quelque part entre Querelle de Brest et Quentin Tarantino, hein, le nez en trompette et l'œil western spaghetti, le cheveu fureur de vivre, le sourire souqué les artimuses. Il a pas de marinière, mais un blouson noir. Ce matin, le musicien Axel Boer, invité de Boomerang pour parler d'accords, de composition, de voix et chanter. Il faut le rappeler, ça faisait pas vraiment partie de votre programme au départ. Mm-hmm. En tout cas, de votre premier groupe, les Nightbirds, je crois. Ouais, c'est pas mm-hmm. vous qui êtes censé tenir le micro. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez à la voix?
Le chanteur a eu peur au premier concert, je crois. Enfin, vous aviez pas lui rendre honneur que de dire ça, mais...
Vous aviez quel âge?
Ouais, on avait 13-14 ans, quoi.
Vous aviez jamais peur, vous?
Non, si, j'avais peur. On m'a désigné comme ça. On m'a dit, faut que quelqu'un chante. Il y a que toi qui peux le faire. Bon, je sais pas. Peut-être je chantais un peu derrière, chantais un peu les chœurs. Alors, je suis parti devant, comme ça.
En tout cas, il y en a une qui chantait avec vous. C'était votre mère. Il paraît qu'elle était dans la salle, Axel Boer.
Oui. ma mère a toujours été d'un grand soutien pour moi. C'est elle qui m'a acheté ma première guitare. Elle a toujours été là. Elle est toujours là. Elle nous écoute, d'ailleurs, je crois, ce matin. Je t'embrasse.
C'est une famille dans laquelle la musique avait une place prépondérante?
Oui, bien sûr. Ma grand-mère jouait du piano merveilleusement bien. Mon grand-père maternel jouait du piano à l'église. Ma tante, je l'ai dit, ma grande-tante aussi, tout le monde jouait, oui.
Et ça tient à quoi, un musicien pour vous, un grand musicien, justement, Axel Boer, dans ceux avec qui vous avez grandi?
Ma tante est une grande musicienne, c'est du travail. Après, je sais qu'elle avait repris le clavier bien tempéré de Bach il y a une quinzaine d'années. On a dit d'ailleurs de sa version que c'était une des meilleures jamais enregistrées. Elle me disait que c'était vraiment un travail de 10 ans où elle était rentrée même dans l'âme de Bach pour essayer de comprendre, pour essayer d'interpréter.
Elle était en transe,
oui,
quand elle jouait.
Oui.
C'est un état que vous recherchez, vous aussi, la transe?
Oui, mais là, beaucoup plus inconsciemment, je pense que c'est l'apprentissage de la guitare qui nous amène aussi vers la sitar, en fait, ou vers le oud. Il y a des sonorités comme ça quand on est guitariste, quand on apprend l'instrument, quand on aime faire des solos, on aime que les cordes résonnent comme ça. Souvent, les guitaristes aiment bien le ré parce que...
Ouais.
Tout de suite, on est dans une ambiance... un peu arabisante. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais.
Que vous étiez dans le ré.
J'étais dans le ré.
Et je vous en félicite. Quand vous écoutez Gérard Manset, qu'est-ce qui se passe?
Quand j'écoute Gérard Manset, il se passe plein de choses, parce que Gérard, c'est un univers... c'est un univers à lui tout seul, en fait. C'est une œuvre, déjà, je crois qu'il y a 19 albums. Il m'emporte dans son univers, dans ses textes. Des fois, je comprends pas ce qu'il dit, mais quelque part, je le comprends au fond.
Parce que c'est lui que vous avez choisi de nous interpréter ce matin, Axel Boer, un titre qui s'appelle Élégie funèbre, qui était sur la face B de son sublime deuxième album La mort d'Orion en 1970. On y va?
Allez.
Couvrez-moi de fleurs s'il le faut, laissez venir l'homme à la faux, et si me coudre les paupières, au moins ne me riez derrière. Oh. Laissez me parler à l'oreille et faire miel de moi l'abeille,
et dans mon ombre laisser vivre, quand bien même le bateau ivre sombre. Croyez-moi, dans ce monde-ci, jamais on ne m'a dit merci, où que ce fût, où que ce soit, qui que ce fût, qui que ce soit, s'en fut. C'est pour ma chair fragile et morte que je prie de vous de la sorte, qu'on ne m'ait pas en terre admis sans que l'on y descende aussi. Que reste-t-il ici de mon passé dans ce caveau frais repassé? L'habit de noces et le carton de ma langue et de mon menton. L'os. Longue la peine de désigner, faisant main comme l'araignée. Les yeux se taisent et la cornée dessous l'arcade cimentée. Couronnez-moi de fleurs mauves, si voyez que ma vie se sauve, et des ténèbres ayez raison, lirez lumière de l'oraison funèbre. Prenez soin de moi si pouvez, faites de vos bouches un navet, que Dieu le dépose ou l'apporte, s'il fut seul au pied de ma porte. Close. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut, laissez venir l'homme à la faux. Couvrez-moi de fleurs s'il le faut. S'il le faut.
La poésie de Gérard Manset. Merci infiniment, Axel Boer. Cette élégie funèbre, c'est dans Boomerang exclusivement. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission et merci aussi à Félix Delacour, à la technique et à la prise de son ce matin. Je rappelle, Axel, que Radio Londres, votre 8e album, sort dans 10 jours et que vous serez bientôt en concert dans toute la France, le 15 novembre, notamment au Trianon. J'aurais pu parler avec vous pendant des heures, mais on doit rendre l'antenne tout de suite. Les médias, Eva Rock.